Air, l'émission d'astronomie amateur de RDIWA 107.5. Alors, aujourd'hui, c'est l'épisode 15 déjà de l'Étoile polaire. Dans le studio avec moi, il y a Axel.
Oui, salut tout le monde.
Et Rémi.
Salut.
Alors, on salue Pierrick et Amandine qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui et qu'on retrouvera dans le prochain épisode. Alors, le sommaire de cette émission. On va commencer comme d'habitude par le ciel ce soir pour vous donner un peu envie de lever les yeux, d'observer les étoiles. En ce moment, on a un joli ciel bien clair, profitons-en. Ensuite, on va parler un peu d'actualité et on va parler du nouveau cycle solaire qui commence. Après, je ferai un petit point d'astronomie et là, je vais parler de Maxwell et donc de l'électromagnétisme en fait. Voilà, ensuite on fera une pause musicale et on terminera l'émission avec la rubrique Abrac. Et cette semaine, c'est Rémi qui nous présentera une introduction à l'astrophoto. Voilà, alors c'est parti. Le ciel ce soir, Axel, nous t'écoutons avec la plus grande attention.
Oui, merci. Le ciel ce soir, alors au niveau planétaire, pour commencer, on pouvait voir à l'ouest les planètes Saturne et Jupiter qui ont illuminé tout notre été, qui se couchent de plus en plus tôt, qui sont de plus en plus basses et qui se rapprochent aussi l'une de l'autre.
Et qui se rapprochent, il y a une conjonction. Voilà,
il y a ce qu'on appelle une grande conjonction, on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est pour le 21 décembre, voilà, où elles vont être très proches l'une de l'autre. Et puis à l'opposé, à l'ouest, Mars est très haute et atteint le méridien, donc son point le plus haut dans le ciel, dans sa course de la nuit. Vers 22h, je crois, 21h, 22h. Donc, c'est des très bonnes conditions pour l'observer, puisqu'on rappelle que plus un objet est haut dans le ciel, et moins sa lumière traverse l'atmosphère, et donc, meilleures sont les images, que ce soit en photo, on aura l'occasion de parler de photo après, avec Rémi, ou alors en observation visuelle avec vos télescopes. Mars d'ailleurs qui monte de plus en plus dans le poisson. Donc la constellation du Poisson, qui fait une sorte de V, qui semble embrasser Pégase un peu, ce V. Elle monte dans le Poisson de droite, du coup, alors qu'elle était à la base, à la jonction des Poissons dans l'été. Voilà, et puis dans les constellations, ça suit la même course. Les constellations d'été se couchent de plus en plus tôt, l'Aigle se couche tôt, Le triangle d'été est très à l'est maintenant, et plus du tout au zénith. Et par contre, on peut trouver des belles constellations qui sont accessibles en ce moment, comme la baleine, où il y a quelques objets sympas à voir dans la baleine. La galaxie du sculpteur, dont j'avais un peu parlé, qui est en bas, qui est dans le sculpteur, mais qui est assez proche de Alpha de la baleine, ou Beta de la baleine. Voilà, mais c'est aujourd'hui la star de l'hiver. Je voulais vous parler d'Orion, qu'on voit presque au coucher du soleil. Il faut attendre un petit peu, il faut attendre peut-être 21h30, 22h pour commencer à la voir au-dessus du Glandas, pour nos amis d'Iwa. et puis dans Orion, évidemment, des plus grandes nébuleuses, si ce n'est la plus grande, je ne sais pas. En tout cas, en visuel.
Bien étendu, ça ouais, c'est voilà, sûr.
La grande nébuleuse d'Orion.
Mais beaucoup de détails intéressants aussi.
Ouais.
Je pense à la nébuleuse de la tête de cheval, je pense au pilier de la création. Il y a quand même des...
Alors, les piliers de la création dans l'Aigle.
Dans l'Aigle ?
Oui.
Oh là là, mais je me tais, je me tais.
Laissez-moi parler, s'il vous plaît, on va lui dire des bêtises. Non, la nébuleuse de l'Aigle, il faudra attendre l'été prochain, c'est dans l'Aigle, c'est dans le Sagittaire.
Ah, il ne sait pas non plus.
Non, c'est dans le Sagittaire.
Bon, on vérifiera ça pour la prochaine fois.
Ou dans l'Aigle, c'est à la limite Sagittaire-Aigle, en tout cas c'est dans M16. Oui, parce que c'est la nébuleuse de l'Aigle, mais c'est dans le Sagittaire, je crois que c'est ça le piège.
Piège.
Oui. Bref, en tout cas Orion, qui est remarquable et très facilement repérable à l'œil nu. Et alors, je pourrais vous parler de la grande nébuleuse d'Orion, mais je crois que tu en avais déjà parlé.
Je l'ai déjà évoqué,
ça. Donc,
toujours à l'œil nu, mais avec la vision périphérique, on en avait déjà parlé, c'est quand même plus net. Vous regardez légèrement à côté de la nébuleuse que vous cherchez à observer, et d'un coup, elle apparaît plus clairement.
C'est ça. Et même dans des instruments comme des jumelles, elle apparaît clairement aussi, donc très chouette. Et puis pour les possesseurs de télescopes un peu plus gros, personnellement, moi hier, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à observer Messier 78, qu'on appelle la nébuleuse de Casper le fantôme. Alors, j'ai pas retrouvé la forme de Casper le fantôme, je vous avouerai, mais en tout cas, voilà, une nébuleuse planétaire qui est pas vraiment ronde comme la plupart des nébuleuses planétaires et qui se trouve sur la gauche du baudrier d'Orion, de la ceinture d'Orion, les trois étoiles alignées. Voilà, la première s'appelle Alnitak, et un petit peu au-dessus, si on remonte dans la constellation, on trouverait Messier 78. Mmh. Voilà.
Beaucoup de nébuleuses obscures.
Oui, 78. Aussi, ouais, autour, il y a beaucoup de nébuleuses obscures, donc des zones plus sombres que le ciel noir.
Donc ça, je précise, c'est des nébuleuses en absorption, où en fait, on va avoir une nébuleuse derrière qui va émettre de la lumière, et devant un nuage de gaz, voilà, en fait, qui, lui, va l'absorber. Et donc, on a des formes sombres qui se dessinent et qui forment des motifs. Quoi. Ouais. Je précise, sur le planétaire, on a quand même aussi dans le ciel du matin
Vénus et Mercure.
Ouais. Particulièrement, on peut faire un petit focus sur Mercure, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut la voir aussi bien. Là, elle est assez lumineuse.
Ouais. C'est assez haute aussi.
Enfin, ouais. Bon, elle reste basse quand
même. Oui, bah, Mercure est toujours basse, voilà, puisque c'est la planète qui orbite le plus près du Soleil.
Oui.
Donc forcément, elle est soit juste après le coucher du Soleil, elle se couche derrière, soit elle se lève un petit peu avant son lever. Mais en ce moment, elle est, je pense que l'élongation qu'on appelle
est maximale.
Ouais.
Et moi, sur le ciel, là, j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Je crois que c'était avant-hier, je regardais, et donc effectivement, il y avait un ciel vraiment très clair. Et en ce moment, on voit bien la Voie lactée. Donc comme tu l'as dit, avec le signe, là, on a l'impression vraiment qu'il plonge
vers l'horizon est.
Vers l'ouest.
L'ouest, pardon.
Et ensuite, quand on remonte la Voie lactée, on arrive sur Cassiopée, puis après, ensuite, sur Orion. Mais moi, ce que j'ai trouvé, j'étais là, je pars du signe, je commence à remonter, et hop, j'arrive sur Cassiopée. Et donc, j'arrive sur une autre partie du ciel, bon, qui est très familière, hein, parce que toutes les constellations circumpolaires autour de l'étoile polaire, Cassiopée, on les voit quasiment toute l'année. Donc ça. Mais d'un coup, je les voyais sous un angle dont je n'avais pas l'habitude. Et ça, c'est une sensation que je pense que tous les astronomes amateurs ont déjà éprouvé à un moment ou un autre, c'est d'observer le ciel. Il y a toujours des zones du ciel qu'on connaît moins bien que d'autres.
Ouais.
Et puis quand on regarde et quand on arrive sur des constellations qu'on connaît, parfois, en fait, on les voit dans une orientation dont on n'a pas l'habitude. Et d'un coup, on a des espèces d'alignements qui se mettent en place dans la tête, d'espèces de visualisation de la sphère céleste, de dire « Ah oui, en fait, cette constellation, elle est là par rapport à celle-là. Ah oui, celle-là, elle est là par rapport à celle-là. » Et je trouve ça, déjà, c'est une sensation qui est plaisante. Mmh. Et puis, je me dis, en fait, que petit à petit, à force d'observer, ne serait-ce qu'un petit peu régulièrement, on construit une image mentale dans notre cerveau de la sphère céleste qu'on a du mal à appréhender. On est sur Terre, on n'en voit qu'une partie à chaque fois, déjà au cours de la nuit, puis au cours de l'année. En plus, on n'a que l'hémisphère nord. Donc, en fait, on n'en voit toujours qu'un petit bout. Et d'arriver petit à petit à se construire une vision un peu plus globale de la sphère céleste, au moins de l'hémisphère nord, en fait, ça prend du temps. Et j'ai vraiment l'impression que quand on a cette sensation-là, c'est qu'on a mis une petite brique en plus, en fait, dans cet apprentissage du ciel, en fait.
Voilà. Et puis en ce moment, c'est flagrant, la Voie lactée, elle fait une vraie voûte, quoi.
Oui.
D'est en arc.
Ah oui, un bel arc, ouais. C'est beau, hein. Elle va vraiment au zénith. Hein.
Ouais. Même si la partie hivernale est moins lumineuse, là on la distingue quand même.
Ouais. Bien, ouais. Ok.
Voilà, je pense, pour le ciel ce soir.
Mais merci, Axel.
Et vous viendrez me parler de Messier 78, hein, si vous voyez Casper.
Ouais, mieux Casper que moi. Le fantôme. Ok. Très bien. Alors on va passer à la suite. Donc un petit point d'actualité. En fait, on s'est basé sur la revue L'Astronomie, hein, le mensuel de la SAF, la Société Astronomique de France.
C'est ça, qui organise la rencontre astro-ciel à Valdrome,
voilà,
tous les ans.
Et donc là, ils ont fait un article, enfin le nouveau cycle solaire est arrivé. Donc on voulait vous parler de ça. Alors il est arrivé en réalité, ça fait un an qu'il est arrivé, hein, le nouveau cycle solaire. Donc c'est l'occasion de parler un peu de ce que c'est que le cycle solaire. Donc notre étoile, en fait, bah, elle a une activité, hein, elle émet de la lumière, elle émet aussi un champ magnétique, elle émet, bon, tout un tas de choses. Et en fait, depuis qu'on a commencé... Alors le premier à avoir observé ce qu'on appelle les taches solaires, c'est Galilée. Donc Galilée, on rappelle, c'est aussi le premier à avoir tout simplement pointé un instrument d'optique vers le ciel. Et en fait, quand on observe le soleil, alors attention, avec un filtre, hein, on n'observe jamais le soleil comme ça directement, à moins d'avoir envie de devenir aveugle.
Oui.
Mais en fait, quand on observe la surface du soleil, on voit qu'elle n'est pas parfaite. Je dis ça parce que Galilée a eu des problèmes avec l'Église à l'époque, puisque le soleil était censé être une sphère parfaite, et non, il y avait des petites taches noires dessus, une espèce de salissure, des imperfections, et ça, ça ne plaisait pas du tout à la mentalité de l'époque. Donc en fait, voilà, il y a des taches solaires, c'est-à-dire des zones un peu plus, des zones plus sombres. Donc par la suite, on a découvert que ces zones correspondaient en fait à une activité magnétique, étaient liées à l'activité magnétique du Soleil, et que c'était des zones qui étaient un peu plus froides que le reste de la surface. C'est pour ça qu'elles apparaissaient sombres et donc moins lumineuses. Voilà. Donc en fait, depuis cette époque, les observateurs du ciel, les scientifiques, ont mesuré le nombre de taches solaires qu'ils pouvaient observer. Et ils ont fait une espèce de tableau. On compte les taches, on voit combien il y en a, et en fonction du temps...
Leur fréquence...
On regarde tout ça. Et en fait, ça fait une courbe, ça fait une sinusoïde, hein, comme une vaguelette, en fonction du temps. Et on dégage donc un cycle d'en moyenne 11 ans pour le Soleil. Alors, ces cycles sont déjà sont pas tous équivalents. C'est pas si clair que ça. Ça peut être 10 ans, ça peut être 12 ans. Et puis, en plus, ils sont différents. Il peut y avoir des... En fait, le maximum du cycle n'est pas toujours le même. Il y a des cycles qui sont très actifs et d'autres qui le sont moins. Et donc, on observe aussi une forme de périodicité dans l'intensité des cycles. Okay. Donc là, en ce moment, on est plutôt sur des cycles faibles, des cycles de faible activité. Et en tout cas, on en a un qui a commencé là, qui commence depuis un an. Et on attaque un nouveau cycle solaire. C'était juste pour vous mentionner ça, cette idée que le soleil, lui aussi, obéit à des cycles, comme à peu près tout dans la nature, et qu'on peut l'observer.
Voilà, pour dire aussi que les astronomes peuvent travailler de jour.
Aussi,
voilà. Tout on n'observe pas que la nuit.
C'est vrai.
On a des astronomes amateurs qui sont fascinés plus par le soleil que par le reste du ciel, et qui avec des appareils adaptés, comme tu disais, des filtres qui permettent de voir les taches solaires ou ce qu'on appelle les protubérances solaires aussi, qui sont des éjections de matière qu'on devine sur la couronne, sur le bord du disque.
Les éruptions.
Les éruptions solaires. Moi, personnellement, je trouve que moi, observer une tache solaire, ça ne m'a jamais mis en transe. Parce qu'au fond, c'est une petite tache noire sur
les protubérances plus.
Mais voilà, les protubérances, quand elles sont belles, c'est quand même impressionnant. On a vraiment des arches de plasma, en fait.
C'est ça.
Qui sont vraiment belles.
Ouais. Si tu te dis que souvent elle dépasse la taille de la Terre.
Largement, oui.
Des fois, des dizaines de fois.
Oui, c'est impressionnant.
C'est impressionnant.
Et ça, c'est beau à observer. Mais il faut un télescope et il faut un bon filtre. Et encore, ça ne fait pas si longtemps qu'on peut avoir dans le commerce pour les amateurs des filtres qui permettent d'observer ça. Avant, il fallait des coronographes. On faisait une éclipse artificielle. Donc, il fallait des instruments qui soient vraiment bien réglés et des télescopes, en fait, mais avec un cache qui occultait le cœur du soleil et qui permettait de n'en voir que la couronne. Ce qui se passe quand il y a une éclipse. Et là, on pouvait voir les protubérances, les éruptions, etc. Enfin, moi, je sais qu'il y a, peut-être 30 ans, j'ai observé dans un coronographe, c'était impressionnant. Quoi.
Oui.
Et là, quand j'ai vu plus récemment les filtres sortir, je trouvais ça vraiment chouette, parce que c'est simple.
Oui.
On met le filtre. Bon, c'est des filtres qui ont un coût, plusieurs centaines d'euros en général, mais c'est beau. Et pour ceux qui sont effectivement passionnés par l'observation du soleil, ça permet de, toute la journée, quand on veut, enfin, évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de nuages, mais d'observer à la fois les taches et à la fois les protubérances.
Il faut bien se renseigner auprès de personnes qui connaissent un peu l'observation solaire, parce que c'est vrai que...
Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Il ne faut pas utiliser le chercheur. Il faut,
faut l'occulter même carrément. Voilà. Non, c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre. Ouais. Pointez jamais vos jumelles sur le soleil, quoi. Rien qu'aux jumelles, déjà, ça fait des dégâts.
Donc ça, c'est sûr.
À l'œil nu, déjà, on ne le supporte pas. De toute façon, naturellement, on s'en écarte. Sauf les Amérindiens qui avaient ces rituels là où ils devaient
fixer le soleil.
Fixer le soleil. Bon, c'était toute une initiation. Mais voilà, effectivement, l'observation du soleil à travers les instruments d'optique, ça demande réellement des précautions. Après, une fois qu'on sait et qu'on fait ça correctement, il n'y a aucun problème. Et c'est un vrai plaisir aussi. Voilà pour ce petit point d'actualité. Alors, on va passer au point d'astronomie.
Oui.
Donc cette semaine, je vais démarrer un cycle d'émissions un peu consacré, on va dire, à l'électromagnétisme, donc à la lumière et à tout ça. Et je vais donc commencer par une sorte de petite biographie du grand nom de l'électromagnétisme qui est Maxwell. Donc James Clerk Maxwell, qui est né en Écosse en 1831. Alors si on devait citer, je dirais, les trois scientifiques majeurs de l'histoire moderne des sciences, bah, il y a Newton, à qui j'avais consacré deux émissions, et qui est vraiment le père fondateur de la science moderne, quelque part, à la fois en physique, en mathématiques, en optique, en tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a Maxwell, et ensuite, il y a Einstein. Bon, voilà, donc c'est quand même... Ça, c'est trois noms qui sont quand même très, très influents dans l'histoire des sciences. À cela, on pourrait... Évidemment, il y en a d'autres. Hein. Et évidemment, oui, aussi, il faudrait rajouter les pères de la mécanique quantique. Ça, j'y consacrerais type Heisenberg, Schrödinger, Bohr et compagnie. Oui. Mais voilà, Newton, Maxwell, Einstein, déjà là, il y a une sacrée base de science. Donc Maxwell, lui, sa spécialité, ça a été vraiment... En fait, il y a les équations de Maxwell. Donc pour ceux qui ont fait un peu de physique, c'est vraiment un grand, grand classique. Et ces équations, elles nous servent encore. Donc je vais raconter un peu ce que c'est et comment il en est arrivé là. Donc Maxwell, lui, comme je disais, il est né en 1831, 19e siècle, dans une famille assez aisée. Et assez vite, il a présenté des facilités pour la science et surtout un énorme intérêt. Donc à 14 ans, je ne sais plus quel travail il avait fait, mais il avait écrit un petit article qui apparemment méritait d'être présenté à l'Académie des sciences de l'époque. Et comme il était trop jeune, c'est un professeur qui l'a fait à sa place, etc. Donc c'était quand même un précoce, quoi. Donc il s'est intéressé à tout un tas de choses. Avant de parler d'électromagnétisme, je vais quand même parler d'un petit travail qu'il a fait en 1859. Donc, il faut voir qu'il a 28 ans à l'époque. Et là, il a résolu un problème que les gens se posaient, qui était quelle est la nature des anneaux de Saturne et comment expliquer leur stabilité. Donc, je rappelle, à l'époque, il n'y a aucune sonde spatiale, il n'y a rien du tout. On ne sait pas. Donc, on fait des hypothèses. Donc, il y en a qui pensaient que c'était des anneaux liquides. Il y en a qui pensaient que c'était solide. Et en fait, toutes les hypothèses allaient bon train. Et lui, en fait, la conclusion de son travail, c'est que eh bien, les anneaux de Saturne ne peuvent être formés que d'une grande quantité de particules solides. Le truc, c'est que c'est vrai. Et que ça, la confirmation expérimentale de ça, bah, c'est les sondes Voyager, en fait, qui l'ont donné dans les années 80. 1980, donc 120 ans plus tard.
Pas avant, ouais.
Donc, je voulais le mentionner déjà parce que c'est de l'astronomie. Et quand même pour saluer, je dirais, la prouesse intellectuelle, quoi, quand même.
D'intuition, en tout cas.
D'intuition et de démonstration. Puisqu'on est quand même là, on est dans de la science, voilà, il faut dérouler les équations pour convaincre et pour dire oui, c'est vrai. Voilà. Donc lui, il dit, bah, ces anneaux, si on observe ça et si c'est stable, la seule explication possible, c'est que ce soit tout un tas de petits corps, de petits débris solides qui orbitent autour de Saturne, et c'est le cas. Donc c'était pour mentionner ces travaux-là. Alors, Maxwell, donc vous voyez, 28 ans, il publie ça. En fait, il a été un des plus jeunes enseignants à l'époque. Il avait 25 ans, il a commencé à enseigner la physique. Et il était en lien avec aussi d'autres grands esprits de l'époque, en particulièrement Faraday. Et il s'est appuyé, en fait, sur les travaux de tout un tas de gens qui sont venus avant lui. Par exemple, Ampère aussi. Et en fait, tous les gens qui ont travaillé sur... D'une part, l'électricité, puis le magnétisme. Donc ça, c'est vraiment des études de physique du 19e siècle. L'électricité, au 18e, il y en a 1700 et quelques, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité, c'est arrivé au 19e. Donc forcément, il y a de la science derrière pour arriver ensuite à faire de la technologie. Hein. Pour arriver à allumer une ampoule, il y a aussi d'abord tout un tas de sciences théoriques d'expliquer mais c'est quoi l'électricité, pour ensuite pouvoir la domestiquer et l'utiliser. Donc, au 19e, il y avait d'une part des travaux sur l'électricité. Donc l'électricité, c'est quoi, d'ailleurs ? Parce qu'on peut se poser la question. Bon, l'électricité, c'est un courant de charge électrique. Donc, on avait déjà parlé des particules élémentaires. Hein, on a parlé des électrons qui orbitent autour des noyaux pour former les atomes et qui sont chargés négativement. L'électricité, c'est un courant d'électrons, en fait. Voilà. Donc, qui transporte des charges avec tous les effets qu'on peut observer. Et d'un autre côté, il y avait le magnétisme. Le magnétisme, bah, à la base, c'était l'étude des aimants. Avec les lignes de champ d'un aimant. Ça, c'est des expériences qui ont été faites au 18e, au 19e et qui sont assez classiques maintenant. Mais vous prenez, par exemple, de la limaille de fer que vous étalez sur une feuille, vous mettez un aimant dessous, et bah, d'un coup, les petits grains de limaille de fer, ils vont s'orienter et dessiner les lignes de champ magnétique.
Donc, oui, c'est une expérience qu'on fait au collège, au lycée,
c'est un classique. Oui. Mais ça date de cette époque-là. Et il y a une époque où on n'avait aucune idée de tout ça. Il a fallu construire cette théorie, il a fallu faire des expériences pour observer ça. Donc lui, en fait, il est parti de tout ça. Et il en est arrivé, en fait, à la conclusion que déjà, l'électricité et le magnétisme, en fait, c'était de même nature. Et il a fondé sa théorie de l'électromagnétisme. Et à l'époque, il y avait tout un tas d'équations qui s'appliquaient. Alors, dans le cas où les charges sont comme ci ou comme ça, on utilise cette équation, etc. Et lui, en fait, il a sorti quatre équations qui expliquent, qui décrivent tout l'électromagnétisme. Donc, c'est là aussi une énorme, sorte d'énorme prouesse intellectuelle, en fait, de faire ça. Ces équations, on les enseigne encore. C'est une base de la physique classique. Donc ça, ces équations, il les a posées en 1864. Et donc, en fait, ce qu'il dit, donc d'une part, il unifie l'électricité, le magnétisme, et il dit qu'il existe une onde qui est associée aux oscillations des champs électriques et magnétiques et qui se déplace dans le vide à une certaine vitesse. Et cette vitesse, il la mesure et il s'avère que c'est la vitesse de la lumière. Et en fait, ce qu'il arrive à dire, c'est que mes résultats montrent que la lumière et le magnétisme, enfin et l'électromagnétisme, sont deux phénomènes de même nature, et que la lumière est en fait une perturbation électromagnétique qui se propage dans l'espace. Donc là, c'est puissant quand même, parce que d'un coup, on part de petits aimants, de petites charges électriques qui se promènent, et on en arrive à déterminer la nature de la lumière. Alors, ça, cette base-là, c'est réellement une base qu'on utilise toujours, hein, qui est vraiment une pierre angulaire de l'astronomie et de la science en général. Et bien, c'est Maxwell qui l'a posée. Donc ça mérite quand même d'être mentionné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique ? Là, on peut s'en faire une idée, mais c'est difficile de la montrer, quoi. On peut pas la montrer. À l'inverse par exemple, d'une onde mécanique, hein, j'ai déjà pris cet exemple, vous lancez une pierre dans l'eau, d'un coup, vous avez des vaguelettes qui apparaissent à la surface de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une onde mécanique, c'est-à-dire, j'ai envoyé une pierre dans l'eau, en fait, c'est comme une impulsion dans le système, et cette impulsion-là, en fait, va se propager dans toutes les directions, selon une forme sinusoïdale, hein, des vaguelettes. Donc il faut imaginer, en fait, que le champ électromagnétique, ce serait comme l'eau, hein, c'est pas de l'eau, mais c'est une propriété de l'espace, et qu'en fait, à la surface de ce champ électromagnétique, on peut avoir des oscillations qui se promènent. Et bien, c'est ça, la lumière. Alors, la lumière vue sous forme ondulatoire, parce qu'on peut aussi voir la lumière sous forme corpusculaire, c'est-à-dire comme un train de photons, de petites particules élémentaires de lumière. Et ça, j'y consacrerai une émission très prochainement sur ces deux visions différentes de la lumière qui, en fait, sont toutes les deux justes en même temps. Donc ça, c'est un peu complexe à appréhender, mais c'est intéressant aussi. Voilà. Alors, voilà pour les travaux. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous détailler les équations et tout, mais l'idée, c'est ça, c'est unifier l'électromagnétisme, comprendre la nature de ces phénomènes et surtout, et ça va intéresser l'astrophysique, déterminer la nature de la lumière, en fait. Alors, par contre, il a une sorte de petite limitation quand même qui lui vient à l'esprit. Il dit, mais moi, quand il imagine cette onde électromagnétique pour décrire la lumière, il n'arrive pas à imaginer que ça se promène dans le vide. Il a besoin d'imaginer un support à la propagation de cette onde, de la même façon que pour le son, il faut de l'air. Hein, le son, c'est une vibration de l'air. L'onde mécanique à la surface de l'eau, bah, c'est une vibration de l'eau. Il y a toujours quelque chose qui vibre. Donc lui, il dit, il y a un truc qui vibre aussi, ça s'appelle l'éther. Alors, cet éther-là, il n'arrive pas à le voir, il n'arrive pas à faire d'expérience dessus, mais il en suppose l'existence, et sur, presque d'un point de vue philosophique, en fait. Il ne peut pas imaginer que les choses se promènent comme ça dans le vide. Cet éther, il sera en fait dans la suite, il sera rendu inutile par Einstein en 1905 quand il fera sa relativité restreinte. Là aussi, dans les prochaines émissions, j'ai en consacré une ou deux à Einstein, donc je ne vais pas détailler plus que ça. Par contre, j'avais envie de vous parler de deux choses, de détailler un peu cette notion d'éther parce que je la trouve intéressante, et d'autre part, vous parler un peu du spectre électromagnétique quand même, parce que ça, c'est aussi une base de l'astronomie. Alors, je vais commencer par le spectre. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur de cette théorie qui décrit la lumière, eh bien, cette onde, elle a en gros deux caractéristiques qu'on va pouvoir déterminer. Enfin, elle a une caractéristique principale qui est ce qu'on appelle la longueur d'onde ou la fréquence, selon comment on voit les choses. Mais on le voit bien pour le son. Hein, l'analogie, il y a les sons aigus, les sons graves.
Oui. D'accord. Dans l'eau, pour rester dans les ondes mécaniques, oui. C'est la distance entre les vaguelettes.
Exactement. La longueur d'onde, ça va être la distance entre deux crêtes ou deux creux.
Oui.
Voilà. Ça, c'est la longueur d'onde. Donc, il faut transposer ça au champ électromagnétique qui va vibrer. Donc, on imagine bien que plus la longueur d'onde est petite, plus l'espace entre les vaguelettes est faible, plus on a quelque chose d'énergétique, en fait.
Une grande fréquence, quoi.
Une grande fréquence. Petite longueur d'onde, grande fréquence. Ou à l'inverse, grande longueur d'onde, faible fréquence et faible énergie. Donc, si maintenant on regarde ce spectre électromagnétique, c'est-à-dire on regarde cette onde électromagnétique, en fonction de sa longueur d'onde, qu'est-ce qu'elle donne en fait ? Qu'est-ce qu'on observe quand on observe ces longueurs d'onde-là ? On observe des choses très différentes. Si on part des plus énergétiques, on a les rayons gamma. Donc les rayons gamma, ils sont associés à une partie de la radioactivité. Donc là, on sait que la radioactivité, ça impacte fortement ce qui est autour. C'est pas comme si je crie sur un arbre, bon, à part la force de mon intention, je ne vais pas y faire grand-chose. Si par contre, je l'irradie à l'uranium, l'arbre, on voit bien qu'il va se passer des choses pour lui. Donc, concrètement, il va mourir. Donc les rayons gamma sont les plus énergétiques et ils sont aussi associés à des phénomènes très violents en astrophysique. Ouais. Ça peut être par exemple les sursauts gamma quand la matière est avalée par un trou noir ou des choses comme ça. Si on descend un peu en énergie, on trouve les rayons X. Alors les rayons X, on les connaît dans l'imagerie médicale. Mmh. Ils sont suffisamment énergétiques pour traverser notre corps quand même.
Sauf les parties les plus solides comme les os.
Et voilà, ils vont la traverser différemment selon la densité en fait. Et du coup, on va avoir une sorte de carte en deux dimensions de la matière traversée. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si on descend ensuite, on a les ultraviolets. Donc ça, on en a beaucoup pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît, les ultraviolets qui nous viennent par exemple du soleil. Mmh. Les ultraviolets qui sont responsables des coups de soleil sur la peau ou des choses comme ça.
Et dont on se protège avec la crème solaire.
Dont on se protège. Et voilà. Mais en fait, ça, c'est la même nature physique. En fait, ce sont des rayonnements qui sont différents, mais qui en réalité ont la même nature. C'est la longueur d'onde qui change seulement. Et si on descend ensuite...
Alors, avant de descendre, est-ce que tu me dis si je me trompe, est-ce que ces trois rayonnements dont tu as parlé, donc ultraviolet, X et gamma, tu nous as dit qu'ils étaient tous les trois mauvais, nocifs, ça dépend toujours de l'exposition.
Ouais, du ils sont énergétiques en fait.
Et c'est ça qu'on appelle les rayons ionisants.
Alors...
Ça n'a rien à voir.
Non, je ne pourrais pas te répondre de façon précise, mais en fait, dans l'idée de ioniser, c'est l'idée que tu as suffisamment d'énergie pour venir arracher des électrons aux atomes.
Oui.
Donc, c'est sûr que ce n'est pas avec des ondes radio que tu fais ça.
Oui.
Donc, quelque part, oui.
Oui, okay.
Plus un rayonnement est énergétique, et plus, en fait, il va impacter la matière et la modifier.
Oui.
Donc, potentiellement l'ioniser. Oui.
Okay. Oui, oui.
Et si on descend sous l'ultraviolet, alors là, on arrive dans le visible. Et donc ça, ça va intéresser, ça nous intéresse dans la vie quotidienne quand même. Donc le visible, ça, c'est-à-dire on va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ce qu'il dit aussi Maxwell, c'est que si vous regardez, évidemment le plus énergétique c'est le bleu, ouais. Hein, on vient de l'ultraviolet, puis le violet, le bleu, et ensuite gentiment on passe par le vert et on arrive au rouge. Donc le rouge, en fait, la différence entre le rouge et le bleu, c'est la longueur d'onde en fait de cette vibration. C'est toujours la même vibration, mais à une fréquence différente.
À quelques milliardièmes de mètres.
C'est du nanomètre, ouais. Et donc, ça veut dire, en fait, que notre œil, lui, qui est sensible uniquement au spectre visible... Alors, il y a des animaux qui sont un peu plus sensibles à l'ultraviolet ou à l'infrarouge. Enfin, on n'a pas... toutes les créatures vivantes n'ont pas le même domaine de sensibilité avec leur œil. Mais nous, ce qu'on a appelé le visible, c'est ce que l'humain, lui, il perçoit avec son œil. Et ça va du rouge au violet, quoi. Et donc la différence entre on va dire le bleu et le rouge, c'est uniquement cette longueur d'onde. Mais en fait, c'est la même chose. C'est la même nature physique, cette onde électromagnétique, encore une fois, qui vibre dans l'espace. Donc ça veut dire que le bleu est plus énergétique que le rouge aussi. Ouais. Et ben ça, on le voit aussi dans les étoiles. Une étoile qui est bleue, elle est plus chaude qu'une étoile rouge. Ouais. Vous prenez une flamme, c'est la même chose. La flamme d'un bec de gaz qui va être bleue en son centre, c'est là que c'est le plus chaud. Et elle va être jaune, orangée, là où c'est un peu plus froid. Si on descend encore, on tombe dans l'infrarouge. Donc là, l'infrarouge, c'est plus associé aussi à la chaleur. C'est-à-dire que c'est un rayonnement, c'est une longueur d'onde qui correspond à l'émanation de chaleur. Vous descendez encore, vous arrivez dans les ondes radio. Et les ondes radio, tout le spectre des ondes radio. Donc ça veut dire aussi, et c'est là l'impact énorme des équations de Maxwell, en fait, sur notre vie quotidienne, c'est que c'est de lui, c'est de ce travail-là que découlent la radio, la télé, la télécommunication, les téléphones portables et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est énorme.
C'est grâce à ça qu'on vous parle.
C'est grâce à ça qu'on vous parle. C'est à cause de ça qu'on pollue toute la Terre avec une quantité astronomique de rayons qui nous traversent en tous sens. C'est-à-dire que ces rayons...
Il y a aussi, pardon, de matière, enfin de pylônes, de satellites.
Alors
de...
ça, c'est un corollaire.
Oui, c'est...
C'est-à-dire pour émettre tout ça, il faut du matériel, il faut tout ça.
Voilà, il faut polluer aussi.
Mais il est clair que nous, là, maintenant, et on le sait, on est en permanence traversés par toutes les ondes radio, la télé, l'Internet, tout ça. Il se trouve que nous, en tant qu'humains, on n'a pas les capteurs. Si on les avait, on pourrait se brancher sur telle chaîne, sur telle fréquence et capter la radio ou la télé ou ce qu'on veut. Donc, mais en tout cas, le fait qu'on soit traversé en permanence par toutes ces ondes que l'humain a générées, c'est un fait. Et tout ça, c'est la base, c'est les travaux de Maxwell. Quoi qu'on en pense sur l'aspect positif ou négatif. Moi, je pense sincèrement que c'est très partagé. Il y a des choses qui sont positives, d'autres qui posent plus de problèmes. Je ne vais pas dire qu'il aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où il a fait cette découverte. Ouais, après, là, ça se discute. Mais en tout cas, c'est un travail qui est énorme. Et le gars, il fait ça avec son papier et son crayon. Et 100 ans plus tard, l'impact, il est phénoménal. Donc, je voulais parler de ce spectre, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'en astronomie, on parle tout le temps, en fait, des longueurs d'onde et des différents types de rayonnement, parce que derrière ça, il y a l'idée que les différents types de rayonnement sont associés à des phénomènes physiques différents. C'est clair, quand un trou, comme je disais, quand de la matière tombe dans un trou noir, ou quand je regarde le rayonnement infrarouge d'un corps humain, par exemple, en fait, j'observe pas du tout les mêmes choses. C'est la même nature, c'est toujours de la lumière quelque part. Alors l'astrophysicien, il appelle ça de la lumière, que ce soit des rayons X, des gammas, de ce que vous voulez, ça reste de la lumière pour nous, c'est du spectre électromagnétique. Mais foncièrement, ce n'est pas associé au même phénomène. Donc c'est aussi pour ça, et j'en parlerai aussi dans la suite des émissions, qu'on construit différents télescopes, différents types de télescopes, différents détecteurs qui vont être sensibles à différentes longueurs d'onde pour observer des choses différentes. Avec un radiotélescope, on n'observe pas la même chose que nous, avec notre télescope amateur dans le visible, ou que des télescopes qui travaillent dans les rayons X, par exemple. Ou gamma, même. Voilà. Donc ça, c'était pour le spectre électromagnétique. Et pour Maxwell, j'avais quand même envie un petit peu de parler de l'éther, de le mentionner. Parce que je trouve ça intéressant toujours, là, ce côté... On avait déjà parlé, par exemple, d'Einstein qui avait introduit la constante cosmologique parce qu'il avait prévu l'expansion de l'univers, mais que d'un point de vue philosophique, ça ne lui allait pas. Donc, il avait introduit, sorti du chapeau, une espèce de petite constante pour avoir un univers stable. Mais Maxwell, c'est un peu pareil. Il trouve les équations de l'électromagnétisme. Il n'y a pas besoin de l'éther. Mais lui, ça ne lui va pas, en fait. Dans sa tête, il lui faut un truc pour que l'onde, elle se propage. Donc, il suppose l'éther. Enfin, disons plutôt qu'il reprend l'idée de l'éther, parce que...
C'est une idée d'Aristote.
C'est une vieille idée, l'éther, donc je vais en parler rapidement. Mais à la base, en fait, c'est les Grecs, dans l'Antiquité, qui ont posé ça. Éther, c'est un dieu qui fait partie du panthéon grec et qui personnifie les parties supérieures du ciel et sa brillance. Donc, en gros, c'est l'air que respirent les dieux, l'éther. Donc, les Grecs avaient introduit, en fait, l'éther comme cinquième élément, l'eau, l'air, le feu, la terre. Et l'éther, mais dans l'idée d'un élément plus subtil, plus élevé, plus pur. Donc ça part de là. Et ensuite, la science, elle a récupéré cette idée d'éther qui, en fait, a traîné depuis Newton, en disant, par exemple, Newton qui a fondé la théorie de la gravitation, et bien pour lui, la façon... Comment expliquer, en fait, par exemple, que la Terre et le Soleil sont en communication? Par quoi passe cette interaction gravitationnelle? Et ben, pour lui, c'était l'éther. Il fallait un milieu qui transmette quelque part l'information. Oui, il y a une grosse masse là-bas et ça va influencer comme ça ma trajectoire. Il fallait un vecteur, en fait, de l'information. Alors, c'est Einstein, encore une fois, qui a mis tout ça à plat en expliquant, non, c'est une déformation de l'espace-temps, et donc, etc. Mais à la base, il ne savait pas tout ça à l'époque. Donc ils ont utilisé l'éther, Newton et tous les autres, en fait, pour transmettre la gravitation, soutenir le mouvement des planètes, propager la lumière, etc. Et évidemment, Newton, je l'ai déjà dit, mais c'était aussi un très grand alchimiste. Et toute la tradition alchimique, elle s'est emparée de l'éther aussi, d'un point de vue symbolique, etc., pour ses travaux. Et il faudra attendre donc Einstein pour que la théorie de l'éther, donc en 1905, pour que l'éther soit définitivement oublié et qu'on se rende compte que non, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Ouais. C'était une sorte de cache-misère, un truc qu'on mettait sous le tapis, tout ce qu'on ne comprenait pas trop, en fait. Voilà. J'espère avoir été clair sur ces histoires d'électromagnétisme et un peu sur la grosse avancée théorique, en fait, que Maxwell a faite à l'époque, fin du 19e. Et il est mort assez jeune, ce Maxwell. Il est mort à 48 ans, en 1879, d'un cancer de l'estomac. Voilà, comme sa mère, apparemment. Et voilà pour cette histoire. On va faire une petite pause musicale pour se rafraîchir un peu les idées. Cette semaine, on va écouter un morceau des Barouderos qui s'appelle Dalai, et on se retrouve juste après. Thank you. et bon retour dans l'étoile polaire sur RDWA 107.5, l'émission d'astronomie amateur. Vous êtes bien avec Fred, Axel et Rémi. Et c'était Les Barreaux des Roses avec le titre Dalai. On en arrive donc à la deuxième partie de l'émission. Et donc cette semaine, pas de rubrique spatiale. Une petite pensée pour toi, Pierrick. Et on va donc passer à la rubrique à braque. Et avec Rémi. Qui va venir, donc Rémi qui pratique beaucoup l'astrophotographie, donc il prend des photos d'objets du ciel et il va nous expliquer un peu comment on fait, parce que ça fait partie vraiment de l'astronomie amateur, hein, l'astrophoto. Oui. C'est tout un pan en fait de la pratique de l'astronomie amateur, assez technique, qui demande des compétences et un peu de matériel aussi. Et il va nous expliquer tout ça dans une première introduction à la discipline.
Voilà, oui, petite introduction. Donc voilà ce qu'on appelle astrophoto, notamment en photo amateur. C'est tout ce qui consiste à imager le ciel, ce qu'on a au-dessus de la tête. Donc comme on disait tout à l'heure, ça peut être de jour comme de nuit. On peut faire l'imagerie solaire comme on peut faire de l'observation solaire, pareil. Disons que chacun y trouve son plaisir d'une manière différente. On va cibler des objets qui sont coup de cœur, des objets qu'on a envie de mettre en photo, qu'on a déjà observé en visuel. Donc voilà, il y a tout un tas de procédés à mettre en œuvre pour arriver à avoir une photo et qu'elle soit la plus belle possible. Et je voulais aussi mentionner que l'astrophotographie, ça s'inscrit dans le domaine de l'imagerie en règle générale et qui a été vachement au service des sciences. Depuis le commencement de l'étude de la cosmologie, c'est-à-dire que ça a participé à renforcer les cartographies, à illustrer des catalogues.
C'est clair, il y a quand même un truc qu'il faut dire en fait, juste, c'est que quand on fait une photo du ciel, en fait notre œil, c'est comme s'il faisait une photo du ciel, mais il fait une photo où le temps de pose est très court. Donc ce qu'on appelle le temps de pose, c'est le temps où on collecte la lumière. Et le gros intérêt de l'astrophoto, en fait, c'est qu'on va faire... Bon, tu vas nous expliquer ça plus, mais c'est qu'en fait, on va faire des temps de pose plus longs pour collecter le plus de lumière possible. Et d'un coup, en fait, on voit les objets beaucoup mieux. Quand vous voyez au télescope, vous observez un objet, quel qu'il soit, prenons une nébuleuse, prenons la galaxie d'Andromède, jamais vous la verrez comme vous la voyez sur une photo. Parce que l'œil, en fait, il ne peut pas imprégner autant de lumière. Donc l'astrophoto et l'imagerie astronomique, c'est un moyen, en fait, de collecter plus de lumière pour avoir des images plus précises, plus lumineuses, plus complètes, en fait, de ce qu'est réellement l'objet.
Voilà, ça va un peu au-delà du potentiel de l'œil humain. C'est-à-dire que le capteur est là pour... vraiment collecter les photons dont tu parlais tout à l'heure, donc les ondes électromagnétiques, que ce soit en argentique ou en numérique, le principe est toujours le même. Le but, c'est de les capturer et qu'ils réapparaissent dans une photo, quoi. Donc, pour la petite histoire, la première photo stellaire qui a été référencée, elle date de 1880. C'était la grande nébuleuse d'Orion, qui a été faite par Henry Draper, un Américain, qui était fils de John William Draper, qui lui avait fait la première photo de la Lune en 1840, donc c'est-à-dire un an après l'invention de la photographie.
Ah oui, donc c'est venu tout de suite, l'idée en fait de photographier le ciel, c'est venu tout de suite.
Tout de suite, oui. La première photographie, on considère qu'elle est arrivée en 1839, c'était des procédés... très long et fastidieux. Ça consistait à immortaliser la lumière sur une plaque d'argent pure, polie, recouverte d'un révélateur. C'était des poses énormes de plusieurs heures pour surtout des paysages, des œuvres d'art, des choses... Enfin, c'est dans un contexte très particulier. Et du coup, tout de suite, les astronomes qui faisaient déjà du visuel depuis un certain temps ont eu envie de pouvoir avoir un support solide, concret, quoi, pouvoir parler, étudier, analyser. Donc voilà, l'astrophotographie, elle a tout d'abord aidé la science dès le 19e siècle. pour pouvoir en parler, quoi. Pouvoir dire ça c'est une étoile, ça c'est une comète, ça c'est une galaxie, pour, voilà, pour pouvoir vraiment mettre des images sur des mots et que ça puisse s'élargir au grand public, quoi. Et donc, au début du XXe siècle, les Américains, ils ont mis un gros coup dans l'imagerie et dans l'observation. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à fabriquer des gros télescopes. Donc, Monsieur George Hall, qui a été un grand fabricant du XXe siècle, qui a commencé à faire des télescopes Newton de 1,50 m, puis de 2,50 m, avec des focales énormes, jusqu'à 12 mètres. Donc voilà, tout le début du XXe siècle a été rythmé par l'avancée technologique qui a servi aux scientifiques jusque aux années 20, en 1924, où Edwin Hubble, après avoir calculé l'expansion de l'univers, a fini par le prouver par la photographie et a, par la même occasion, prouvé que, par exemple, la galaxie d'Andromède était à l'extérieur de la Voie lactée, quoi. Oui. On commençait à se projeter dans des objets interstellaires, quoi. La Voie lactée n'était pas l'univers, mais il était intégré à l'univers, quoi.
Oui, il y a eu un grand, grand rôle joué par l'astrophoto sur la détermination des distances des objets.
Voilà, ouais.
Et on avait parlé à l'émission sur Edwin Hubble avec les CFI, les déterminations de distance, mais ça a été énorme, en fait, comme avancée de déterminer les distances de ces taches floues qu'on voyait dans le ciel, de ces nébuleuses. Hein. C'est ça, une nébuleuse, c'est un truc, c'est nébuleuse, c'est une tache, quoi. Mais c'est quoi, en fait? Et c'est clair que là, il y a eu vraiment un apport énorme, voire essentiel, de la technique de l'astrophoto sur les avancées théoriques et la compréhension, en fait, de ce qu'on observait.
Voilà, ouais, ça a permis de capturer la lumière. Bon, il faut savoir que les premières photos du 19e siècle, elles avaient moins de détails que quand on observait en visuel.
Ah oui.
C'était des essais, des exercices. Mais du coup, ça a permis voilà, tous les scientifiques, notamment Edwin Hubble, qui a beaucoup œuvré jusque dans les années 50, dans tous ses travaux. Donc voilà, on était dans le domaine de l'argentique, les émulsions, les révélateurs. C'était assez impressionnant le travail qu'il mettait en œuvre, les temps de pause, jusqu'à arriver dans les années 70-80 où les capteurs numériques ont fait apparition, quoi. Comme des grandes tablettes avec des pixels.
Caméra CCD.
Voilà, caméra CCD. Par la suite, ça a abordé des photos monochromes, ce qu'on appelle la trichromie. C'est-à-dire que pour avoir une photo en couleur, il y avait trois photos monochromes avec des filtres verts. Enfin, un filtre rouge, un filtre vert, un filtre bleu. Et à partir de là, les nuances mélangées donnaient une photo couleur. Donc voilà ce qui est de l'histoire. À partir de là, des années 80 et les capteurs numériques, là, ça a complètement explosé, quoi. Là, départ de la sonde Voyager, lancement du télescope spatial Hubble 1990, les grands télescopes en Atacama au Chili qui se sont construits, pareil, dans les années 90... Voilà, jusqu'à maintenant, c'est un domaine pour lequel beaucoup de gens œuvrent, en tout cas pour la science. Et il y a aussi toute une communauté d'astronomes amateurs qui se dédient à l'astrophoto. C'est-à-dire que, bon, c'est pas, on ne va pas faire une soirée d'astronomie en visuel de la même manière qu'on va faire de l'astrophoto. On peut faire les deux, hein, mais ça demande encore plus de matériel. Mais généralement, voilà, une soirée d'astrophoto, ça se prépare dans le sens où, comme en visuel, il faut guetter une météo idéale, avoir un ciel le plus dégagé possible, éviter les phases entre le premier croissant et la pleine lune, dernier croissant, on pratique vachement moins.
Oui, toujours avec cette lumière-là de la pleine lune et autour de la pleine lune qui irradie partout dans le ciel.
Voilà, ouais.
Rien qu'en visuel, on est déjà gêné. Alors, comme on a dit, on collectait beaucoup de lumière, bah, s'il y a la lumière parasite de la lune, c'est pas la peine. Vous pouvez ranger les boîtiers, quoi.
Voilà. Je voulais aborder un petit peu les techniques utilisées, c'est-à-dire, par exemple, une soirée type d'astrophoto selon l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire qu'on peut être en nomade, en randonnée en haut d'une montagne, en bivouac, on peut très bien sortir un trépied, un appareil photo, faire des poses magnifiques. Mmh. C'est généralement là, en altitude, où on a le meilleur ciel pour imager. Voilà. On peut croire qu'il faut énormément de matériel, beaucoup de savoir-faire, tout ça, mais c'est quand même quelque chose de très abordable, quoi. Ça se fait avec un boîtier, un appareil photo réflexe classique. Ça peut se faire à plusieurs focales, c'est-à-dire qu'on peut faire des grands champs avec une petite focale, par exemple tout ce qui est des photos de voie lactée, qu'on peut faire avec des objectifs très ouverts. Même en fisheye, où là on voit vraiment tout le paysage nocturne.
Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un fisheye ?
Un fisheye, c'est un terme qui est utilisé parce que généralement l'image est légèrement déformée. C'est-à-dire
œil de poisson.
Œil de poisson, c'est-à-dire que nous, on a dans notre œil, on a à peu près une focale entre 40 et 50, disons la façon dont on perçoit la perspective. Un fisheye, quand on descend à 16, 12 mm, là, c'est comme si on voyait on avait une vision parabolique. Mmh. Et c'est pas simplement comme si on regardait en face de nous, quoi. On voit vraiment sur les côtés. Ça laisse apparaître beaucoup de choses. Donc pour imager le ciel, c'est hyper intéressant. Et donc, avec ces procédés de pose longue, comme tu parlais, là, ça laisse révéler beaucoup, beaucoup d'objets qu'on voit pas à l'œil nu. Notamment en grand champ, ce qui est la Voie lactée, quoi. Mmh. La Voie lactée, on la devine, on la soupçonne, elle traverse le ciel. Dès qu'on met une pause de 20 secondes sur un appareil, sur un simple trépied, là on la voit apparaître, c'est super. Donc les grands champs, c'est hyper abordable. Cette année, il y a eu le passage de la comète NEOWISE, il y a eu énormément de photos qui ont été faites par des amateurs. C'est vraiment super, il faut simplement adapter le temps de pose, c'est-à-dire que comme le ciel tourne et que nous on est sur une planète, enfin, c'est plutôt la planète qui tourne et le ciel qui bouge pas, mais disons que ce qu'on va photographier est en train de bouger, donc soit on pose pas très longtemps et ça suffit à ne pas bouger, il y a une loi qui s'appelle la règle des 500, il faut diviser 500 par la focale de l'objectif et ça nous donne un temps de pose en secondes. Donc avec un 50 mm, on a le droit à 10 secondes, 500 divisé par 50. Mmh. Voilà, et donc plus on monte en focale, plus le temps de pose est court. Et donc, rien qu'avec ce procédé-là, la règle des 500, un trépied, on peut arriver à faire des super photos sans avoir forcément à sortir la grosse artillerie. Après, dès qu'on monte en focale, dès qu'on passe sur soit des lunettes, soit des télescopes, ou même des téléobjectifs...
Là, c'est plus technique.
Là, c'est plus technique dans le sens où il faut un suivi. C'est-à-dire que là, on passe avec une monture équatoriale. On fait un alignement avec l'étoile polaire, ce qu'on appelle la mise en station. Pour avoir un trépied, disons une monture qui va tourner en même temps que la Terre. Qui va faire que l'objet reste fixe dans le champ de l'appareil photo, quoi.
Voilà. Alors, on peut juste pour mentionner sur ce que tu disais sur les images à courte focale, donc grand champ en général. Ouais. Ce que je trouve intéressant avec ces photos, c'est qu'aussi souvent, il y a un côté un peu artistique où les photographes prennent aussi une partie du paysage.
Ah oui. Voilà, tout à fait. Ouais.
Et du coup, mettent en contexte ce ciel. Ça fait des très, très belles photos. Là. Il y en avait récemment là, pour Festiwild, une petite expo là, au monastère de Sainte-Croix, là, cette année. Il y avait des belles photos de ciel, en fait, de montagne. C'est beau. Et c'est vrai que ça, c'est accessible. Et d'autre part, il y a quand même le grand classique de l'astrophoto, c'est la circumpolaire, si tu peux en dire deux mots.
Ouais, bien sûr, la circumpolaire, c'est une photo du ciel, sauf que on bouge pas l'appareil photo et on prend des poses de 10-15 secondes, mettons toutes les 5-10 secondes. C'est-à-dire qu'on prend des photos en rafale sur 1 heure, 2 heures, 3, 5 heures, le temps qu'on peut. Et après, avec des programmes informatiques, on reconstitue une photo, une seule photo, à partir de toutes les photos. Donc, les points d'étoiles vont se succéder jusqu'à former des grandes traînées.
Mmh. Des arcs de cercle.
Des arcs de cercle, voilà. Et quand on vise l'étoile polaire, mettons, en faisant cette photo-là, eh bien, on s'aperçoit bien du mouvement de rotation de la Terre, quoi. Là où il y a tous les filets d'étoiles qui apparaissent, qui sont parallèles parfaitement. Mmh. Ça fait des super belles photos. Et au même titre que les voies lactées, c'est souvent des photos qui sont embellies par un premier plan bien choisi, bien éclairé. C'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a imagé une fois la voie lactée, bon, bah, maintenant, on va essayer de la mettre en valeur avec un arbre en premier plan, un paysage, un bâtiment. Il y en a même qui font des photos où c'est le premier plan net, la voie lactée floue, ça donne des effets de style, quoi. C'est, chacun est libre de s'exprimer un petit peu à travers cette pratique de l'astrophotomateur, quoi.
Alors là, tu parles de traitement informatique, mais sur une circumpolaire, tu peux le faire juste comme ça. Si par exemple, quelqu'un qui nous écoute, là, il a envie d'essayer, vous avez un appareil photo, un trépied, vous posez ça à l'arrache, même pas sans forcément pointer la polaire, c'est mieux de le faire, mais enfin, en fait, comme vous voulez.
À peu près,
mais partout, ce qu'il faut, c'est pouvoir régler son temps de pose. Vous posez votre trépied, vous ouvrez l'appareil, vous prenez une pause d'une heure. Déjà, il se passe quelque chose, quoi. Vous avez déjà, vous voyez la rotation, vous voyez tout ça. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une entrée en matière qui est accessible à tous ceux qui ont un appareil photo. Ça fait un peu de monde, quand même.
C'est sûr. Mais tous ceux qui ont envie de s'exercer à l'astrophoto, c'est complètement abordable. Il faut savoir que il faut faire beaucoup de tests. Enfin, c'est comme en visuel, quoi. S'il faut apprendre à connaître son matériel, à le régler, à appréhender la situation, les saisons. Donc voilà, ça peut s'aborder assez simplement et j'encourage tout le monde à essayer s'il a envie de garder une trace du ciel dans son album.
J'ai une petite question personnelle. Tu les diffuses, toi, tes propres photos? On peut les observer sur Internet, les apprécier ou pas du tout?
Non, j'ai pas encore mis en ligne, mais...
On en avait parlé, on a dit qu'on allait peut-être illustrer les podcasts de l'émission avec certaines de tes photos.
Ouais, c'est avec grand plaisir.
Donc,
en tout cas, c'est
on le mentionnera à ce moment-là dans le texte du podcast, que c'est les photos de Rémi.
Ah, super.
En tout cas, Rémi, on est vraiment heureux dans l'étoile polaire de t'accueillir dans l'émission.
Sur cette
thématique de l'astrophoto, tu vas revenir régulièrement nous parler de ce thème qui t'est cher, que tu pratiques et qui viendra enrichir nos discussions.
Mmh. Avec grand plaisir.
On vous souhaite une bonne semaine. On vous remercie d'avoir écouté l'émission et on vous dit à la semaine prochaine.